l'éternelle demeure de Dieu et des bienheureux. Elle dit que c'est un miracle, traduisait Juan Diego. Il lui arrivait aussi de tenir des propos équivoques. Non, pardon, c'est soit un miracle, soit un saignement normal. Mais déjà Lupe se penchait, le chiffon dans sa petite main. Miraculeux ou non, elle essuyait le sang sur la chaussure ou le mollet avant que la victime ait pu réagir. Si on leur offrait de l'argent, les enfants protestaient. Ils refusaient toujours d'être rémunérés pour avoir fait observer le miracle ou pour essuyer le sang sacré, voire pas sacré du tout. Disons plutôt qu'ils commençaient par décliner. Ils ne mendiaient pas, eux. Après l'accident, Juan Diego découvrit qu'il pouvait mettre à profit le fauteuil roulant, qui offrait plus de cachette pour le pistolet et lui laissait les mains libres pour empocher, non sans réticence, le dédommagement. En revanche, les béquilles étaient mal commodes, puisqu'il devait en lâcher une pour tendre la main. C'était alors plutôt Lupe qui prenait l'argent malgré ses scrupules, et jamais de la main qui avait essuyé le sang, bien sûr. Quand Juan Diego en fut au stade de la claudication, ils se mirent à improviser. En général, Lupe cédait bon gré mal gré aux instances des hommes qui tenaient à la récompenser. Quand leurs victimes étaient des femmes, Juan Diego découvrit qu'un garçon infirme suscitait plus de sympathie qu'une fillette agressive. Il réservait le mot stigmate aux occasions à haut risque, où Juan Diego osait viser la main du client potentiel. Il le faisait toujours par derrière. Lorsqu'on marche, on a souvent les bras ballants, paumes ouvertes vers l'arrière. Et quand on voit tout à coup apparaître une giclée de sang rouge betterave sur sa main, et qu'une petite fille se jette à genoux à vos pieds en s'embarbouillant le visage d'un air extatique, il y a des chances qu'on se laisse gagner plus que d'ordinaire par la foi. C'est alors que le jeune infirme criait le mot stigmate en espagnol et en anglais, car il y avait des touristes dans le Socalo. La première fois où les enfants réussirent à rouler Rivera, ce fut avec le coup du jet sur la chaussure. Il leva les yeux vers le ciel, mais pas pour y chercher une manifestation divine. « Peut-être qu'il y a un oiseau qui saigne, » dit-il simplement. Le jet sur la main ne le trompa pas davantage. Quand il vit Lupe se barbouiller du sang de sa main, il la lui retira calmement, et quand Juan Diego se mit à crier le mot « stigmate », le patron de la décharge lécha sa paume. « Los betabeles, » dit-il en souriant à Lupe. « Les betteraves. » L'avion venait d'atterrir aux Philippines. Juan Diego enveloppa un morceau de muffin au thé vert dans une serviette en papier qu'il fourra dans la poche de sa veste. Les passagers s'étaient levés pour rassembler leurs affaires, moment toujours délicat pour un infirme. Pourtant, l'esprit de Juan Diego vagabondait. Lupe et lui étaient alors des adolescents. Ils patrouillaient le Socalo, au cœur de Oaxaca, repérant le touriste naïf et l'infortuné natif, susceptible de croire que, depuis ces hauteurs invisibles, un dieu nébuleux leur avait accordé la grâce d'un saignement spontané. Comme toujours et partout, même à Manille, ce fut une femme qui eut pitié de ce monsieur d'âge mûr qui boitait. « Je peux vous aider ?» lui demanda cette jeune mère. Elle voyageait avec deux enfants en bas âge, une petite fille et son frère, encore bambin. Elle avait donc les mains prises, mais tel était l'effet du handicap de Juan Diego sur les femmes en particulier. « Oh non, merci beaucoup, je vais me débrouiller tout seul, » lui répondit-il aussitôt. La jeune mère sourit, visiblement soulagée. Ses enfants continuèrent de regarder fixement la patte folle de Juan Diego, médusée comme tous les gosses par l'angle de son pied. À Oaxaca, se souvenait Juan Diego, ils avaient appris la circonspection dans le Socalo, interdit aux voitures mais infesté de mendiants et de vendeurs à la sauvette. Les mendiants avaient parfois un sens aigu de leur territoire. Quant aux vendeurs, l'un d'entre eux, marchand de ballons, avait repéré leur arnaque sans qu'ils s'en aperçoivent. Un jour, il donna un ballon à Lupe et dit en regardant Juan Diego, « J'aime bien son style à elle. Toi, tu te fais trop voir, mon petit cracheur de sang. » Il portait un lacet de cuir maculé de sueur autour du cou, sorte de collier brut, auquel était attachée une patte de corbeau qu'il touchait en parlant comme on toucherait un talisman. « Du sang, j'en ai vu du vrai dans le Socalo. Il faudrait pas que des malveillants s'aperçoivent de votre petit jeu. Ils voudraient pas de toi, mais elle, Il la prendrait, dit-il en désignant la petite de sa patte de corbeau. Il sait d'où on vient. C'est lui qui, sur le Basurero, a abattu le corbeau dont il a gardé la patte, dit Lupe à Juan Diego. Le ballon qu'il m'a donné, il est percé, il fuit. Demain, il sera tout dégonflé. J'aime bien son style, répéta le marchand à Juan Diego. Il donna un second ballon à Lupe. Dans celui-là, il n'y a pas de trou. Il fuit pas. Mais demain, qui sait? J'ai pas abattu que des corbeaux sur le Basurero, petite sœur. Les enfants prirent peur parce que le vendeur louche avait compris Lupe, sans avoir besoin de traduction. Il tue les chiens. Il en a tué sur la décharge, et beaucoup, cria Lupe. Elle lâcha les deux ballons qui étaient à l'hélium et montèrent très haut, même celui qui était percé. Après cet épisode, le Zocalo ne fut plus jamais le même. Les enfants se méfièrent de tout le monde. À la terrasse du Marqués del Valle, hôtel favori des touristes, un serveur les avait repérés. Il avait vu le coup des stigmates, ou bien le marchand de ballons le lui avait raconté. Il les avertit donc d'un air sournois qu'il pourrait cafeter aux religieuses. Vous n'avez rien à confesser au père Alfonso ou au père Octavio, vous deux? Et qu'est-ce que vous pourriez leur raconter aux nonnes? C'est du faux sang que je parle. Voilà ce que vous avez à confesser. Mais vous dites que vous pourriez nous dénoncer. Vous allez le faire, oui ou non? Moi, je vis des pourboires, répondit l'autre. C'est ainsi que les enfants perdirent leur meilleur emplacement et durent passer au large du Marqués del Valle, où un serveur opportuniste réclamait son bakchiche. Lupe décréta que ça leur porterait malheur de fréquenter les abords de l'hôtel, de toute façon, parce que un des touristes qui s'était laissé berner par leur jus de betterave avait sauté du balcon du cinquième étage. Ce suicide était intervenu peu après que l'homme avait donné un pourboire très généreux à la petite qui avait essuyé le sang sur sa chaussure. Il faisait partie de ces âmes sensibles qui ignoraient les scrupules des enfants. Il avait spontanément tendu une belle somme à Lupe. Ce type ne s'est pas tué parce que sa chaussure s'était mise à saigner, voyons, Lupe, avait expliqué Juan Diego. Mais la petite n'avait pas la conscience tranquille. Je le savais qu'il était triste. Je voyais bien que sa vie était moche. Juan Diego n'était pas mécontent d'éviter l'hôtel. Il le détestait déjà avant la rencontre avec le serveur rapace. Marqués del Valle. C'était le titre que Cortés s'était arrogé en arrivant, et Juan Diego se méfiait de tout ce qui concernait la conquête espagnole, catholicisme compris. Oaxaca avait joué un rôle essentiel dans la civilisation zapothèque. Lui et sa sœur se considéraient comme zapothèques et détestaient Cortés. Nous sommes les enfants de Benito Juárez, pas les siens, disait volontiers Lupe. Eux, ils étaient indigènes. L'état de Oaxaca voit converger deux chaînes de la Sierra Madre. Mis à part l'Église toujours prosélyte et soucieuse d'étendre son influence, les Espagnols ne s'y intéressèrent jamais beaucoup, sauf pour planter le café dans les montagnes. Puis, comme attirés par les dieux zapothèques, deux tremblements de terre devaient détruire la cité de Oaxaca, capitale de l'état, l'un en 1834 et l'autre en 1931. Ces faits historiques était à l'origine de l'obsession de Lupe. Elle qui répétait à tout propos et hors de propos « No es buen momento para un terremoto »« C'est pas le moment pour qu'on se prenne un tremblement de terre » appelait pourtant de ses voeux le troisième, celui qui détruirait Oaxaca et ses 100 000 habitants, ne serait-ce qu'à cause de la tristesse du touriste suicidaire au Marqués del Valle, ou des méfaits de l'homme au ballon, tueur de chiens, impénitent. Or, selon elle, quiconque tuait des chiens méritait la mort. Un tremblement de terre carrément, Lupe. Et nous alors? On mérite tous de mourir? Demandait Juan Diego. On ferait mieux de quitter la ville, enfin, toi en tout cas. Parce que le troisième, on va y avoir droit. Tu ferais mieux de quitter le Mexique. Et pas toi? Toi tu vas rester, pourquoi? C'est comme ça, moi je reste à Oaxaca, c'est comme ça. Juan Diego Guerrero, romancier de son état, en était là de ses réflexions quand il arriva pour la première fois à Manille. Distrait et désorienté. Une jeune femme avec deux enfants en bas âge